7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines pour se parler au quotidien et pour vous servir. Aujourd'hui, c'est le retour du coach. Bonjour Didier Acouetté.
Bonjour Emmanuel.
On vous retrouve une fois par mois, je crois que ça y est, tout le monde le sait, chez les 7 milliards de voisins, pour le rendez-vous des JPAG, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Didier, vous avez assez de bouteilles pour coacher les jeunes maintenant qui veulent entreprendre sur le continent, que ce soit pour des projets business, des projets sociaux, des projets humanitaires. Vous aimez bien aussi les projets culturels, je le sais. Et chaque mois, les projets arrivent sur notre boîte mail à 7milliards@rfi.fr. Et c'est Camille Néran qui les sélectionne. Il faut que, bien sûr, ces projets soient un minimum aboutis, réfléchis, même si l'entreprise n'a pas démarré. Et surtout, les voisins, vous devez nous envoyer un vrai document de présentation. Ça s'appelle un business plan, en français, un plan d'affaires.
Accessoirement, oui.
Sinon, vous êtes fâché, en général, Didier.
Sinon, c'est une idée qu'on teste.
Exactement. Alors, pas d'idée à tester, mais de vrais projets. Et pour partager vos problèmes, les voisins, les voisines, vous posez vos questions à Didier Acouetté. Vous pouvez aussi nous appeler tout de suite au 33 1 84 22 71 71. C'est le rendez-vous des JPAG aujourd'hui. Et avec le coach Didier Acouetté, directeur général d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines. C'était il y a quelques jours la 18e édition d'Afrique Talent.
Oui, et
c'est
des
l'âge adulte.
C'est
ça, des cheveux blancs.
On a la majorité. 18 ans déjà, vous rendez compte,
oui.
Que ce salon est né à Paris.
Et c'était le marché des cadres qui était à l'époque complètement occupé par des expatriés il y a 18 ans.
C'est vrai.
Peu de gens y croyaient.
Oui, et puis que beaucoup d'Africains n'avaient pas d'opportunité d'identifier des jobs sur place.
Oui.
Et on leur a apporté les jobs presque sur un plateau lors de ce salon. Et qui
moi, je me disais, il y a 18 ans, ce type est dingue, ou il est génial.
Ouais. Alors 18 ans après, qu'est-ce que vous concluez, Emmanuel ?
Ça va, ça tient la route.
Bon, je peux encore entreprendre alors.
Alors, où en est-on donc 18 ans après sur ce marché des cadres africains ?
Écoutez, c'est un marché qui est toujours aussi dynamique, avec des secteurs nouveaux. Cette année, par exemple, pendant le forum, il y avait beaucoup de postes dans les sciences techniques, dans l'industrie automobile. Et c'était assez intéressant, même les télécoms qui recrutaient effectivement beaucoup plus ce qu'on appelle les soft skills, recruter des techniciens, des ingénieurs. Et vous savez, on en parle souvent dans l'émission, c'est vraiment les années à venir, ou les décennies à venir, la décennie des techniciens, des ingénieurs, parce que le continent en a vraiment besoin pour faire sa transformation.
J'allais vous poser la question, il y avait une conférence sur quels emplois, quels métiers pour demain, quels conseils vous donnez aux jeunes, que doivent-ils surveiller, lire, de qui se rapprocher, pour mieux comprendre ce qui les attend.
C'est que tous les métiers vont évoluer. Et donc même un métier de base comme le commercial d'aujourd'hui ne sera pas le commercial demain, parce qu'il va falloir qu'il s'adapte à un marché qui change en permanence. L'ingénieur d'aujourd'hui va être en phase de technologies qui vont complètement être en mutation. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte au métier de demain, au métier nouveau qu'on ne connaît pas aujourd'hui ? Et donc, ça appelle un certain nombre d'aptitudes, comme l'adaptabilité, la capacité à apprendre, à se documenter, à utiliser plusieurs plateformes en même temps. Et donc, ça va être le règne de ceux qui sont extrêmement agiles et qui peuvent s'adapter, parce qu'on ne sait simplement pas 30% des métiers qui vont apparaître demain. Donc, des qualifications dont les diplômés, dont les cadres auront
un
besoin.
Un exemple quand même, là, de nouveaux métiers qui pointent le bout de leur nez.
Non, mais je donne toujours l'exemple du garagiste. Vous savez, le garagiste qui utilisait ses outils mécaniques, aujourd'hui, vous voyez que plus de 20% d'une voiture, c'est l'électronique en termes d'investissement. Et donc, quand vous allez chez un garagiste qui ne sait pas lire une table électronique, il ne pourra pas faire grand-chose.
Donc, il faut qu'il soit aussi informaticien, si possible.
Eh bien oui, qu'il sache lire des tableaux d'analyse, des tableaux de mesure, puisque c'est le tableau qui va détecter la panne.
Pour les cadres, puisque votre salon est dédié aux cadres.
C'est un ingénieur. Quand je parle d'un garagiste, ça veut dire que demain, c'est plus qu'un simple mécanicien de base. Et dans l'industrie automobile, pour parler d'industrie automobile, demain, les ingénieurs de l'industrie automobile vont être des ingénieurs qui vont inventer des concepts, des voitures qui vont rouler sans pilote, par exemple. Donc, quand vous emmenez une voiture sans conducteur dans un garage, il fait quoi, le garagiste ? C'est l'exemple que tout le monde comprend, parce qu'il y a beaucoup de garagistes qui nous écoutent, je suis sûr.
On voit que c'est un monsieur qui aime les voitures. Avant qu'on donne la parole à un premier projet, Didier, il faut tout de même qu'on signale un grand bravo à une voisine que vous avez coachée dans l'émission, Sandrine Sandrine Assouan-Kouao,
oui, en Côte d'Ivoire.
Qui, ça y est, à Abidjan, qui ouvre, elle nous l'avait prédit, sa boutique Natural Beauty Store, rue des Jardins, à Abidjan, des produits de beauté naturels, et bah, c'est quand même formidable.
Ah non, c'est génial, et puis des produits contre la dépigmentation, c'est-à-dire qui luttent contre la dépigmentation.
Donc,
on trouvait ça extraordinaire.
Et ouais, on l'embrasse, Sandrine, si elle boutique. Nous écoute. Tous nos encouragements, en tout cas pour cette nouvelle boutique, parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir la boutique, il faut qu'il y ait du passage, du trafic et des ventes. Bien évidemment, tous nos encouragements. Nous passons maintenant à un premier projet et on va déjà donner le numéro de téléphone immédiatement.
33 1 84 22 71 71 pour se parler.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Alors la surprise, c'est qu'on a une première porteuse de projet qui est dans le studio avec nous de 7 milliards de voisins, Didier. Bonjour Clène.
Bonjour.
Vous avez 35 ans, vous vivez entre Paris et Brazzaville, enfin surtout à Brazzaville. Et
exactement.
On dirait pas comme ça Didier, mais Clène est éleveuse.
Oui.
Éleveuse de porc, vous avez vu son dossier.
Eh ben vous voyez, on peut être jolie, jeune et être dans l'élevage de porc, comme on peut être agriculteur et porter un nœud papillon comme le président de la BAT, comme il le disait souvent.
Exactement. Alors vous êtes née à Brazzaville, Clène, vous avez quitté le Congo à 2 ans, vous avez fait des études en France, un master en finance de marché, vous avez travaillé dans la banque, hein, c'est bien cela. Et puis vous avez créé la ferme Linzolo, du nom de la région, c'est à 40 km ça, de Brazzaville,
un petit peu plus. Plutôt 20 km.
Ah oui, un peu
au
moins.
Au sud de Brazzaville.
C'est une région qui est connue pour l'élevage de porc.
En fait, Linzolo, historiquement, était réputée pour la vente et surtout l'élevage de porc.
Et alors, la ferme Linzolo, c'est une ferme d'élevage, de transformation et de vente de spécialités, qu'on peut appeler des spécialités charcutières.
Pour l'instant, nous faisons uniquement de la production de porc, donc nous ne sommes pas encore passés à la phase de transformation.
Mais le but du projet,
c'est d'arriver à transformer,
à produire
le porc.
Des produits finis, donc de la charcuterie. Qu'est-ce que vous souhaitez produire?
Tous les produits à base de porc, que ce soit charcuterie, saucisson sec, jambon, côte de porc.
À Brazzaville.
Oui, à Brazzaville.
Comment vous avez eu cette idée?
Alors l'idée est partie en fait d'un constat, c'est qu'à chaque fois que je faisais mes retours au pays, bah on me demandait à chaque fois est-ce que tu peux nous apporter du saucisson sec et tout le temps et souvent même dès l'aéroport les douaniers me demandaient bah alors est-ce que tu nous as apporté des bâtons,
il y a un marché là,
des bâtons de saucisson sec et puis c'était récurrent et puis je me disais mais pourquoi à chaque fois on me demande du saucisson sec de France alors que et pourquoi l'importer alors qu'on pourrait très bien le produire sur place. Et c'est de là qu'est partie l'idée. Bah, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas me lancer dans l'élevage de porc et après produire donc le saucisson sec sur place, puisque je me rendais compte qu'il y avait une forte demande et c'était un besoin social.
Alors vous avez commencé, c'est ça, un besoin social. Vous avez commencé tout petit, en 2015, avec 4 femelles, un mâle. Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai environ 200 têtes.
200 têtes de porc?
Oui.
Ouais. Et vous avez un circuit de distribution pour distribuer cette viande qui n'est pas complètement transformée?
Non, pour l'instant, nous ne transformons pas du tout. Nous faisons uniquement des livraisons auprès des supermarchés et auprès des revendeurs.
D'accord, donc les bêtes sont abattues. Et
voilà,
d'accord,
c'est ça.
Donc c'est quand même déjà un produit qui est en partie, qui n'est pas complètement transformé, mais qui ne vendait pas des bêtes vivantes.
Non.
Vous distribuez auprès des supermarchés casinos?
Oui, des supermarchés casinos et des revendeurs en fait.
D'accord. Voilà. Et l'objectif du projet, c'est d'aller beaucoup plus loin.
Exactement. Donc mon ambition serait de développer mon activité en ouvrant donc une boucherie et vendre le porc sous toutes ses formes. Donc je pourrais très bien me contenter de vendre, de faire uniquement des livraisons comme je le fais déjà, mais c'est pas
ça
mon objectif.
Ça marche bien pour le moment?
Oui, ça peut aller, mais c'est pas mon objectif, donc je veux apporter une valeur ajoutée et aller plus loin dans la transformation du produit.
En vendant quoi exactement? Directement du saucisson?
Voilà, du
par
saucisson,
exemple.
Oui, pourquoi pas, en vendant du saucisson sec et en vendant aussi le porc sous toutes ses formes.
Et pourquoi vous voulez aller jusqu'aux produits transformés? Pourquoi finalement vous voulez proposer un circuit court?
Mon objectif n'est pas uniquement de me limiter à la production. Je veux aller plus loin parce que je me rends compte qu'il y a vraiment une demande sociale. Et aussi en passant à la transformation, je pourrais aussi créer des emplois. Donc je me rends compte qu'il y a une forte demande donc dans l'aliment et vendre un peu plus.
Quels sont vos problèmes à l'heure actuelle?
Alors, les problèmes que je rencontre actuellement sont d'ordre financier. Actuellement, je suis donc à la recherche de partenaires d'investisseurs, partenaires financiers et techniques qui pourraient donc m'aider à réaliser donc le projet. Alors Didier, maintenant que vous connaissez bien mon projet, donc j'aimerais vous poser donc deux questions, notamment sur la recherche de financement. J'entends parler des plateformes de crowdfunding, mais c'est difficile de trouver celles qui acceptent des projets africains. Et comment faire pour que le projet soit validé et les utiliser de manière efficace? Et ensuite, comment trouver des partenaires techniques accessibles? Serait-il possible d'établir des échanges?
Qu'est-ce que vous voulez dire par partenaire technique?
Des partenaires
pour techniques. Pour transformer la viande de
voilà,
porc?
Voilà, exactement. D'établir des échanges entre personnes qualifiées qui pourraient venir et former les équipes sur place.
À Brazzaville.
Voilà.
Ils sont dans l'industrie. À 20 km. Non, mais déjà, c'est déjà de plus en plus encourageant de voir des jeunes, des femmes dans l'industrie agroalimentaire ou alimentaire de manière générale.
C'est ça.
Et beaucoup de compétitions d'affaires auxquelles j'ai participé, je vois de plus en plus de jeunes femmes en plus, et ça, c'est formidable. Parce qu'il faut qu'on nourrisse l'Afrique. Deuxièmement, c'est qu'il faut qu'on transforme nos produits. Et c'est en ça que je trouve que le projet est extrêmement intéressant. C'est pas que de l'élevage de porc, mais c'est qu'on va transformer le porc sous toutes ses formes et pouvoir distribuer ses produits. Sur la partie financière, alors, les plateformes de crowdfunding, il y en a qui sont spécialisées, c'est vrai. Il y a quelques exemples bon, qu'on vous a mis de côté et qu'on pourra vous donner après l'émission, comme Mimosa, comme Foodraising, qui le font. Et même des jeunes de HEC qu'on avait reçus dans le studio, qui sont installés à Dakar, qui ont une plateforme de crowdfunding pour l'Afrique et pour les pays bon, d'Afrique de l'Ouest, mais on peut aller en Afrique centrale, donc qui peuvent le proposer. Ça, je vais considérer que c'est une sorte de fond d'amorçage. La chance que vous avez, c'est que vous êtes déjà en fait en production. Vous vendez déjà du bétail, entre guillemets, en plus à des supermarchés. Donc Casino, par exemple, qui est un de vos clients. Si vous avez un contrat à l'année, par exemple, avec ce distributeur ou d'autres distributeurs, vous pouvez parfaitement utiliser ces contrats d'achat donc en avance, parce que vous avez une sorte de précommande qui permet aux banquiers d'être rassurés, de savoir que quand vous vendez, que vous produisez, vous avez une source de revenus qui permet d'amortir le financement. Vous avez parlé à des banquiers déjà, à Brazzaville,
ouais,
qui n'ont pas
voulu
financer un petit peu
oui, malgré vos contrats avec des supermarchés.
J'ai déjà contacté des banquiers, bon, qui sont un petit peu frileux parce que le fait de voir surtout une femme devant le projet, je suis pas vraiment prise au sérieux, malheureusement.
Ah, mais vous avez vos fiches de commandes, vous avez vos chiffres d'affaires.
Ça fait pas tout parce qu'en fait, ils nous demandent énormément de garanties et c'est
on en est toujours là, Didier.
Oui, hein. oui, c'est toujours le même problème. Il y a un fonds de garantie à Brazzaville, qui est rattaché au ministère, je crois, des PME. En tout cas, il y a un fonds de garantie, puisqu'on a eu à faire un travail à Brazzaville sur un fonds de garantie. Ça peut peut-être venir en support, s'ils demandent des garanties. Après, vous avez des fonds comme le Fonds africain de garantie, qui accompagne également des petites entreprises, parce que c'est vrai, le banquier, si vous n'avez pas de garantie, souvent il va demander un terrain de maison ou des titres, je suppose. Au moins peut-être une garantie d'un fonds comme ce fonds à Brazzaville ou AGF peut peut-être constituer...
Renforcer un dossier pour une banque.
C'est ça. Parce que le banquier veut, en cas de casse, pouvoir récupérer ses sous. Bon, on le dit souvent dans l'émission, il veut pas prendre le risque. Alors maintenant, moi je disais, si vous avez des commandes fermes sur 12 mois par exemple avec des clients qui sont des clients bien connus sur la place... En principe, le banquier est un petit peu plus à l'aise pour accompagner un peu en trésorerie. Parce que le besoin que vous avez aujourd'hui, c'est plus pour de l'investissement ou pour acheter un peu plus de porc ou recruter des gens.
Non, le besoin est plutôt sur l'investissement, en fait, pour passer à la deuxième phase qui est la transformation.
D'accord.
Des machines, voilà.
Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, avec le nombre de têtes de bétail que vous avez,
200 têtes,
vous estimez que vous pouvez installer une première petite industrie de transformation?
Oui, j'ai la possibilité, parce que déjà le terrain fait à peu près un hectare, donc il y a suffisamment de place pour installer cette...
Non, c'est par rapport au nombre de têtes de bétail que vous avez aujourd'hui.
Est-ce donc, qu'avec 200... j'ai 200 têtes, je pense que c'est pas suffisant, mais je suis dans un processus de renforcement des capacités de production. Et donc aussi, faut savoir qu'à Linzolo, il y a beaucoup de fermes, donc avec lesquelles on a déjà discuté du projet, et c'était possible qu'on se mutualise en coopérative pour pouvoir faire le projet, pour monter le projet.
D'accord. Bah, ça aussi, je pense que voir un banquier avec une coopérative, c'est-à-dire si vous vous structurez en coopérative, parce que le premier réflexe que j'ai eu quand vous dites investir dans Unité Transformation, c'est qu'il faut un peu de volume quand même en termes de bétail.
Tout à fait.
Pour faire un peu de volume de transformation. Donc si vous avez d'autres éleveurs qui sont prêts à être dans une coopérative et au lieu de 200 têtes, on passe à 2000, 3000, 4000 têtes dans un projet industriel, on commence déjà à passer à une certaine phase du projet et peut-être là, si les distributeurs acceptent déjà d'acheter vos produits tels qu'ils sont sur 12 mois et que vous arrivez à grandir le bétail et passer à une phase semi-industrielle, peut-être un banquier serait peut-être plus confortable parce qu'il sait que vous avez 12 mois de commandes fermes déjà à deux produits existants, que vous apportez une garantie d'un fonds de garantie pour la partie industrielle. Avec forcément la deuxième question, qui
les
est
partenaires
le
techniques.
Partenaire industriel.
Exactement,
effectivement.
Pour renforcer la formation, etc., exactement. Pour la transformation de cette viande.
Si vous allez au Kenya, en Afrique du Sud, sans parler de la France, mais vous êtes à Paris actuellement, il y a des industriels qui ne font que ça. Je suis certain qu'ils seront d'accord pour vous mettre à disposition un expert. Et pourquoi pas, si le marché les intéresse, voire peut-être même vous fournir du matériel industriel qui est peut-être pas du dernier cri, selon ce que vous voulez produire. Donc vous fournir du savoir-faire industriel et peut-être même du matériel industriel pour commencer la première étape de la transformation sans que ça ne vous coûte trop cher. Et peut-être qu'ils peuvent devenir aussi des partenaires financiers et industriels.
Mais c'est intéressant parce que vous réagissez très positivement à ce projet.
Oui, parce que je vois qu'il y a une classe moyenne qui consomme énormément des produits transformés, des produits agroalimentaires. Et je vois passer plein de projets dans ce domaine. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique importe plus de 40 milliards de produits agroalimentaires. Et quand vous savez que le Brésil exporte plus de 60 milliards chaque jour ou chaque mois de bétail, c'est juste dingue quoi. Donc vous imaginez le potentiel de production, de consommation de l'Afrique aujourd'hui qui n'existe pas. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel.
En 2 ans, vous avez avancé vite, Clène, déjà.
Oui, ça va. Je suis plutôt satisfaite.
Bon, vous y croyez?
Bien sûr, sinon je ne le ferai pas.
Merci en tout cas d'être passé nous voir. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Vous allez écouter les autres projets,
hein, avec
bien
plaisir.
Sûr. Et puis surtout, vous nous tenez au courant, parce qu'on a envie de savoir si, quand on arrivera désormais à l'aéroport de Brazzaville, on pourra, qui sait, acheter du saucisson sec dès l'arrivée à l'aéroport.
Absolument. Et le chiffre que je cherchais, c'est 60 millions de dollars. De vente de viande par jour du Brésil. 60 millions de dollars par jour.
Voilà, pourquoi pas venu d'Afrique.
Eh bien oui, peut-être que Clène sera la championne de la viande de porc en Afrique dans les 10 prochaines années.
J'espère bien.
En tout cas, c'est un beau projet. Merci Clène.
Merci à vous.
Nous vous rappelons le numéro de téléphone si vous souhaitez nous contacter pour dialoguer à terme avec Didier Agouété, le coach sur vos projet d'entreprise, d'entrepreneuriat, si l'entreprise a déjà démarré, si elle n'a pas démarré. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Nous rendons bientôt l'antenne pour le flash. Je voudrais qu'on accueille Coucou qui a 25 ans, qui nous appelle de Lomé. Bonjour Coucou.
Bonjour madame Emmanuel.
Coucou, vous allez bien sûr discuter avec Didier Agouété juste après le flash chez 7 milliards de voisins. Je voudrais juste dire à nos voisins, surtout de ne pas quitter, de rester en ligne avec nous, de rester à l'écoute de notre émission. Vous avez lancé Johnny Group, c'est une petite entreprise de distribution de gaz butane à domicile et à crédit. Et c'est d'ailleurs ça qui est assez nouveau, c'est le côté crédit. Le gaz, on va en discuter avec Didier Agouété. Évidemment, vous avez envie de savoir comment vous pouvez augmenter le chiffre d'affaires. Vous démarrez tout juste, hein, ça a démarré il y a 2 ans, hein. C'est bien ça, Coucou, votre entreprise de distribution de gaz butane?
Oui, je vous ai dit, madame.
C'est Emmanuel, hein, moi, Coucou.
Oui, madame Emmanuel.
Oui, madame Emmanuel, ça fait un autre genre.
Coucou, on se retrouve juste après le flash. Vous restez bien avec nous. Les voisins, surtout, vous restez à l'écoute. On va découvrir pourquoi cette entreprise de distribution de gaz butane à domicile. Ça se passe à Lomé. Vous connaissez bien le pays, Didier.
Oui, madame Emmanuel.
À tout de suite.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Nous sommes avec le coach Didier Akwété qui écoute vos projets et vous conseille sur l'entrepreneuriat. C'est la réunion des jeunes patrons de l'Afrique qui gagne, les JPAG. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Nous étions en ligne juste avant le flash avec Coco, 25 ans, à Lomé. Coco, vous êtes toujours en ligne avec nous, hein ?
Oui, madame Emmanuel.
Vous êtes diplômé, vous êtes technicien en contrôle et audit interne des entreprises. Vous avez travaillé dans de petites structures spécialisées en crédit et vous avez lancé tout récemment donc cette entreprise de distribution de gaz butane à domicile. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vendez ce gaz butane à crédit. C'est bien ça la nouveauté de ce projet ?
Ça, justement, du projet Johnny Group, c'est-à-dire dans la distribution du gaz butane à domicile, à n'importe quel allumé. D'abord, le projet Johnny Group qui est né du fait que le mot Johnny, qui dans la langue Nina, veut dire Johnny, il appelé généralement quand beaucoup de personnes n'ont pas d'argent, pour se payer quelque chose, cash, ils disent amène ceci, amène cela, et ensemble, il y a Johnny, il y a plénois. Et donc, c'est de là qu'est né le concept, Johnny Group, le nom.
Donc,
le nom lui-même.
En langue, et oui, c'est ça. Donne un peu, je donne un peu et payons-le, c'est ça.
Et payons-le et partageons-le ensemble.
Et comment ça fonctionne ? Alors, on passe commande par SMS, par WhatsApp, c'est ça, auprès de vous ? Et vous livrez ?
Pour être servi, il faut nous appeler le standard, nous envoyer un SMS, ou WhatsApp, tous les réseaux sociaux.
Ouais.
Et nous sommes disponibles 24 sur 24, répondre aux messages et servir le client.
D'accord. Vous livrez du gaz butane à domicile, auprès de particuliers, éventuellement auprès d'entreprises ou pas ?
Justement, les ménages, les entreprises comme les cafétéries, les restaurants, les usines. Nous livrons du gaz partout.
Mais le client paye quand même une petite avance à la livraison.
Oui, et il faut payer le quart du coût total à la livraison. Par exemple, ça coûte 4 000, ça va donner 1 000, alors ça amène le gaz à domicile.
Okay,
le reste, le paiera en 3 autres tranches hebdomadaires.
D'accord. Et ensuite, on rembourse toutes les semaines. On paye le quart du prix total de la livraison de gaz. On rembourse toutes les semaines. Vous avez dit aussi dans votre document que votre projet a une dimension environnementale, économique.
Ça permet à tous les bois soient moins abattus. Nous pourrions être très conseillés parce que les gens privilégient désormais le gaz au charbon de bois.
Oui.
Donc, c'est écologique. L'aspect économique, d'abord, reconnaissons le charbon de nos jours coûte plus cher que le gaz. Ceux qui utilisent le gaz, nous avons fait l'expérience avec eux, nous sommes rendus compte que ceux qui ont la possibilité de gaz de 4 000 par exemple, vivent beaucoup plus que ceux qui se paient du charbon à 4 000 francs. Mmh. Et donc, c'est très économique. Et l'autre aspect qui est beaucoup plus modernisé, c'est que le foyer à gaz est beaucoup plus présentable à quelqu'un qui est, par exemple, un invité. Donc, le foyer à gaz est très moderne, très présentable et économique.
Oui, voilà. Il n'y a pas de fumée, c'est ça que vous voulez dire ?
Justement, il semble économiser de l'énergie et de temps pour faire le feu du charbon de bois par rapport à celui du butane. Justement, il y a des questions à poser à M. Didier, c'est que de plus en plus, il y a les fonctionnaires qui s'intéressent aux produits Johnny Group. Mais ces fonctionnaires qui sont payés en chaque fin de mois, il faudra négocier avec une banque partenaire, la banque dans laquelle leurs salaires sont généralement virés, afin qu'en fin du mois, les opérations de transfert d'argent soient automatisées. Des comptes de ces clients vers le compte Johnny Group.
C'est-à-dire ce que vous voulez dire, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez pas lancer l'automatisation des prélèvements pour certains clients qui, eux, seraient d'accord, parce que vous n'avez pas l'accord des banques, hein, c'est bien cela.
Voilà, et donc, à l'approche des banques, pour la négociation de cette automatisation-là, il y a une banque qui voudra prélever 10% sur notre majoration. Et donc, nous voulons demander.
Ah oui, c'est pas qu'elles disent non, c'est qu'elles veulent prélever une commission. 10%, c'est énorme, 10% de commission sur un prélèvement automatique.
Voilà, ils ne sont pas en train de nous faire avoir.
Ah, d'accord, c'est la question à Didier. Est-ce que vous êtes en train de vous faire avoir ou pas ? Bon, Didier, Coco est-il en train de se faire avoir par les banques ?
Non, déjà, voilà. Je crois que son produit répond aussi à un besoin. Et c'est vrai, en termes de santé, c'est un dégât. Le nombre de femmes qui allument donc le charbon de bois pour faire du feu, la fumée qu'elles absorbent pendant des années, c'est terrible. Et écologiquement, il a raison, c'est un désastre écologique le charbon de bois. Sauf que dans les pays où on a essayé de faire le changement des habitudes du charbon au gaz, le gaz a été subventionné. Maintenant, c'est le secteur privé. D'ailleurs, il y a une entreprise à Lomé qui fonctionne très bien, Sodigaz, qui distribue du gaz également et qui fait un tabac. Donc, Coco a trouvé un filon intéressant.
Le gaz est subventionné au Togo ?
Partout, le gaz doit être subventionné, comme le pétrole. En tout cas, si vous voulez arriver à changer les habitudes, il faut absolument qu'au début, les populations paye le moins cher possible le produit. Sinon, pourquoi voulez-vous que le bois, qui est beaucoup moins cher, ou qu'on va chercher même de manière gratuite dans le bois, on s'en prive pour aller acheter du gaz.
Mais Coco nous disait bien que de toute façon, là, le gaz revenait moins cher. Hein.
À terme, quand vous allez chercher du bois gratuitement, je sais pas, même si le gaz est peu cher, vous le payez quand même le gaz.
D'accord, à Lomé, ça va devenir compliqué de trouver du bois gratuitement.
Ça va être de plus en plus compliqué partout, de toute façon.
Bon,
sur la question de Coco, alors, le modèle ne me paraît pas tout à fait efficient pour l'instant, Coco. Parce que, si vous voulez, quand je prends le taux de bancarisation, qui est relativement faible dans nos pays, c'est-à-dire on est entre 8 et 12%, donc une population, il faut qu'elle soit bancarisée, il faut que la banque accepte que les montants soient prélevés, que le consommateur l'accepte, que la banque vous prenne ses 10% au passage, je trouve que déjà sur le modèle...
Ça s'appelle une usine à gaz.
Enfin, que c'est un peu compliqué à déployer comme solution, même si dans un premier temps, c'est la formule que vous avez trouvée. Alors maintenant que la banque vous prenne 10%, pourquoi pas 20%, pourquoi pas 5%, si à 10% vous gagnez encore beaucoup d'argent, pourquoi pas, mais ça me paraît beaucoup. En même temps, si c'est le moyen qui vous permet d'avoir des consommateurs qui vous paient régulièrement votre commande, peut-être au début, c'est une étape par laquelle il faut passer, parce que 10% en soi, ça ne veut rien dire. Mais c'est le modèle que je questionne. Vous n'avez pas pensé à un autre mode de paiement que le prélèvement sur une population qui présente autant de contraintes, qui doit acheter vos bouteilles, en fait?
Donc justement, la première phase, c'est que les ménages et les bonnes dames, elles, autres, ils paient très correctement et hebdomadairement, jusque la tranche des personnes qui sont des fonctionnaires d'État, des fonctionnaires qui sont payés mensuellement, voudraient bien que le prélèvement ou que le paiement leur soit établi mensuellement.
D'accord, mais pas de manière hebdomadaire, parce que là, vous disiez qu'ils doivent payer chaque semaine. C'est très contraignant, hein. Et même pour
les
la banque.
Les fonctionnaires voudraient être, voudraient payer chaque mois.
Eux, c'est chaque mois, c'est ça?
Oui, justement, pour les fonctionnaires spécialement.
Et c'est le coût de 10% de la banque qui vous gêne?
Oui, nous voulons demander si nous sommes pas en train de nous faire avoir.
Enfin, vous savez, le banquier, d'abord, il fait un crédit à 15-18%, on se fait toujours avoir. Alors, quand il prend 10%, c'est toujours un peu levé. Mais dans votre modèle économique, quand le banquier vous prend 10%, qu'est-ce qui vous reste encore comme marge? Quand vous déduisez toutes vos charges, y compris les 10% du banquier.
Une sorte d'autre charge, il nous reste à peine 3% pour la caisse de Johnny Gopin.
Bon, donc c'est trop cher, effectivement. Ce n'est pas un modèle qui est viable. Coco, sur le modèle même, je voudrais que vous re-questionnez votre modèle. Le principe du prélèvement, pourquoi pas? Ça limite quand même votre clientèle, parce que votre clientèle, ce ne sont pas que des fonctionnaires. Votre clientèle, c'est vraiment même la maman qui cuisine.
Pour que les remboursements arrivent automatiquement et qu'ils ne courent pas faire du porte-à-porte.
Alors justement, est-ce que vous avez par exemple un modèle de gaz qui dure par exemple une semaine ou deux semaines? Pourquoi je dis ça? Vous voyez,
nous avons des gaz qui durent jusqu'à 2 mois et demi, 3 mois.
Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que au lieu de vendre un produit qui va durer un mois, que quelqu'un n'a pas les moyens de payer, c'est comme lorsque vous vendez un sac de riz de 25 kilos ou les recharges de téléphone de 10 000 francs CFA. Et les gens disent, mais non, c'est trop cher pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des petits coupons de 500 francs que les gens achètent tout le temps. Au lieu de vendre un sac de riz de 25 kilos, on a fait des petits sachets de 1 kilo ou de 500 grammes que les gens achètent tous les jours. Donc, je me demandais simplement si dans votre modèle, au lieu de vendre le produit à 4 000 francs qui va durer peut-être un mois sur la consommation, est-ce que vous avez une version intermédiaire qui permet au consommateur de le payer à 1 000 francs, 1 500 pour une consommation donnée et qui lui permet la semaine d'après ou 2 semaines après de recommander? En gros, c'est ce dans
donc
le modèle économique.
Donc on est plus sur l'idée de la vente à crédit. Hein.
Voilà, c'est ça. Parce que la vente à crédit, c'est vous allez faire le banquier en fait pour vos clients. Et la banque, vous avez dit, en plus, va piquer une bonne partie de votre marge. Donc, si vous n'avez pas les moyens de préfinancer, effectivement, le cycle de trésorerie, est-ce que le produit, vous pouvez le vendre sous un autre format qui vous permet de ne pas faire de crédit?
Bon, Coco, la ligne est très mauvaise, mais je voudrais quand même lire l'autre question que vous posez aussi à Didier à côté, qui est intéressante, parce qu'il faut savoir que cette petite entreprise a fait un sondage dans un quartier résidentiel administratif à Lomé, c'est Kodjo Viakopé. Et de ce sondage est ressorti cette petite étude de marché que a fait Johnny Group. Eh bien, les gens ne sont finalement pas tellement intéressés par le gaz, alors que c'est moins cher sur plusieurs personnes. personnes. 3 seulement se ravitaillent régulièrement en gaz, hein, sur une vingtaine de personnes interrogées, je crois. Alors, pourquoi est-ce que le gaz n'est pas intéressant pour les habitants, les entreprises, les commerçants de ce quartier? Coco, vous interrogez, en fait, hein, comment adopter une stratégie pour attirer cette population-là vers le gaz, pour leur vendre du gaz, hein. C'est bien ça, Coco?
Justement, madame Emmanuel.
Alors, vous savez, c'est un phénomène social et culturel. Quand vous avez toujours cuisiné au feu de bois, vous cuisinez au feu de bois, lorsque la cuisinière ou la nounou cuisine dehors sur, vous savez, les espèces de...
Les braseros.
En métal, bah, ils continuent comme ça. Pourquoi acheter du gaz? Le gaz, c'est d'abord pour une utilisation généralement dans une vraie cuisine aménagée, avec une gazinière, une cuisinière. Donc, on n'est pas encore souvent dans ce mode de consommation, y compris dans des quartiers comme celui qui l'indique. Donc, c'est un processus, en fait, de transformation qui se fait en termes d'habitude, en termes de consommation et d'accès à un produit. Donc, vous êtes simplement en avant sur un marché, Coco, qui va forcément se développer. Sauf que pour l'instant, des camarades à vous ont eu des idées plus astucieuses. C'est-à-dire, au lieu de livrer du gaz, vous livrez un fourneau traditionnel où le gaz est intégré.
Donc c'est petite quantité.
Exactement. Donc, et je crois que d'ailleurs Soudigaz le fait, et d'autres le font en Afrique de l'Ouest, même à Abidjan. On a eu un modèle qui était extrêmement intéressant. Je crois
qu'il est passé dans l'émission, mais c'était avec du charbon de bois, me semble-t-il.
Et il allait passer au gaz, parce qu'on parlait des questions écologiques. Donc, si vous voulez changer les habitudes, vous ne pouvez pas dire aux gens, allez acheter une cuisinière, et ensuite vous allez vous approvisionner en gaz. En revanche, comme vous cuisinez tous les jours et que vous utilisez un fourneau en métal avec du charbon au quotidien dans la cour, je vous propose plutôt un fourneau économique, plus résistant, qui cuit mieux, qui est au gaz, qui ne vous revient pas plus cher que le charbon. Mmh. Et les gens vont commencer à changer le mode d'emploi, en réalité, de la façon de cuisiner. Et du coup, utiliseront le gaz.
Conclusion, Coco, si j'ai bien compris les explications de Didier à côté, il faut changer votre modèle économique et changer le produit tout court, finalement. Hein.
Je pense que c'est ce que vous avez compris. Ce produit ne s'adresse pas à ce segment de marché pour l'instant, et ça va être une des questions du business plan, la segmentation des marchés. Il a un bon produit qui s'adresse à un type de marché, mais il veut le vendre à un marché qui n'est pas prêt. Donc, il doit décliner son produit s'il veut adresser l'autre marché des consommateurs de base, de la bonne femme qui va au marché, de la bonne femme qui cuisine dans la cour de la maison, qui n'utilise pas une gazinière. Donc, il faut un produit adapté à cette bonne femme qui utilise du coup le gaz, mais pas la cuisinière à l'occidentale comme on connaît,
Coco,
parce que beaucoup n'investissent pas dedans.
Vous nous entendez bien? Vous êtes en avance sur les ménagères, il faut revenir en arrière et changer le modèle.
Ce que j'aimerais ajouter, c'est que nous ne livrons pas seulement que du gaz, nous mettons également à disposition de cette population des cuisinières, des bouteilles à gaz, des fours, des gazinières. Vous savez que on leur donne toujours la possibilité de payer à petit coût.
Bon, mais les ménages vont y venir à la gazinière, hein, c'est une question de mois ou d'années.
C'est une question de temps, c'est simplement une question
de... Bonne chance, Coco, on se tient au courant, vous revenez vers nous, hein, dès que ça avance. Merci beaucoup de nous avoir appelés, je rappelle le numéro de téléphone 331 84 22 71 71. Vos idées pour faire avancer l'Afrique, vos projets d'entrepreneuriat.
C'est négro beau débarras dans les parages, demande à Donka. Le pôle le NF réseau à la base du barbal. Qui donne le texte, il est de quartier. Les petits qui parlent, ma voilà, faut se tarter. Des têtes armées, chez nous y'a les bravas. Dans mon sous les fils de pute qui parlent, mais des les gars. Tous ces enfoirés, chez qui passent ma ouais, c'est pas ta mentie. J'ai pas de fiche de pêche, connais pas mon salaire, mais j'parle des Gucci. On m'a dit qu'à fouguette la concurrence, j'vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans le mur. C'est jaloux, laisse les coups mal à mal, là, c'est pour nous. Ils diront MHD, il est relou. En tac parti, le mec nous a chez vous. LNG va doucement sur vos colères. Qui me suivent en solo sur Twitter. Ma chérie me presse pas l'amour et tueur. Il t'a digné, c'est ça qui me fait peur. Tous ces enfoirés, j'ai qui passent en ouais, c'est pas ta mentie. J'ai pas de fiche de pêche, connais pas mon salaire, mais j'parle des Gucci. On m'a dit qu'à fouguette la concurrence, j'vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans le merde. Fais le move, 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 f
PhD Afrotrap chez 7 milliards de voisins. Didier Akwété, le coach, vous écoute, vous conseille, répond à vos questions. On passe à un troisième projet. Aboubakrine est en ligne avec nous de Bamako. Bonjour Aboubakrine.
Bonjour Emmanuel Bastide. Bonjour Didier Akwété et bonjour à nos chers voisins.
Bonjour Aboubakrine.
Et les voisines alors?
Oh oui, effectivement, les voisines.
Aboubakrine, vous avez 27 ans, vous êtes à Bamako, vous avez fait des études de droit public et à présent, oui, vous êtes en première année de marketing dans une école privée. Et votre, oui, alors vous, à la différence des deux autres projets que nous avons eus qui ont déjà démarré, votre projet pour l'instant est à l'état d'ébauche mais déjà bien réfléchi, c'est de créer un site internet d'annonces immobilières, ouais, qui s'appellerait Maliba Immobilier. Ça n'existe, oui, pas encore au Mali, des sites internet avec des petites annonces pour la location ou la vente de logements?
Non, non, non. Il existe des sites pour les agences immobilières, mais pas un site qui centralise les annonces immobilières.
D'accord, mais les agences immobilières ont bien des sites internet.
Voilà, certaines agences immobilières.
Et vous partez du principe que ces sites ne sont pas bien faits?
Bon, ces sites sont très... ne sont pas faciles à utiliser et c'est très, très limité. Voilà, la différence du lien qui va regrouper les différentes annonces immobilières et faciliter leur diffusion.
Alors, votre principe, si j'ai bien compris, à la différence des agences immobilières, c'est de créer un, oui, site qui va centraliser toutes les annonces pour ensuite effectuer, ouais, une recherche où on va mettre des mots-clés par localité, par critère de ce qu'on cherche, un local commercial, un appartement, un logement, et par budget. Hein, c'est comme ça que ça va fonctionner.
Effectivement.
Le site internet n'est pas encore créé.
Le site internet n'est pas encore créé. Mmh.
Mais comment comptez-vous vous y prendre, Aboubakrine, pour parvenir à rassembler toutes les annonces des agences immobilières ou que l'on vous confie des annonces, que l'on poste, voilà, des annonces sur votre site?
Bon, je compte faire le tour du Mali, les 10 régions, l'IS Bamako, pour démarquer les listes d'agences possibles pour leur adhésion et leur proposer des espaces d'annonces sur mon site. Et 5 annonces à 5 000 francs par mois et 10 000 francs par annonce pour les particuliers et pour les acheteurs et les locataires, ça serait gratuit pour eux.
D'accord. Voilà. 2 000 francs CFA par annonce pour les particuliers, ça fait 3 euros l'annonce, hein, c'est ça? Et puis voilà, 5 000 francs CFA, ça fait à peu près 7,60 euros l'annonce pour une agence immobilière qui posterait le bien qu'elle a à vendre, à louer sur votre site.
Oui, oui, effectivement.
Et puis les acheteurs et les locataires, ils vont vous sur votre site gratuitement.
Voilà, c'est pour les acheteurs et les locataires, c'est gratuit.
Oui.
Maintenant, mon problème principal pour l'instant, c'est de trouver du financement pour la création du site et avoir un local. Seulement, je ne sais pas à quelle porte frapper. J'aimerais demander à Didier quel mode de financement les plus adopté à mon projet et qu'il me conseille. Ça, c'est ma première question.
Et la deuxième?
La deuxième, je suis jeune, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine de l'immobilier et du commerce. Donc, j'aimerais savoir si cela peut-il être un frein. Par exemple, lorsque je vais démarcher les agences immobilières, et comment être crédible face à mes clients.
Oui, parce que vous avez 27 ans et vous ne venez pas du secteur de l'immobilier.
Oui, oui.
Alors, sur le financement, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce projet, Didier?
Celui qui a créé Uber, il n'était pas chauffeur de taxi. Hein, donc, si vous voulez créer un site immobilier, vous n'avez pas besoin d'être dans l'immobilier. Donc ça, il faut déjà que vous enlevez ce genre de frein. Si vous avez une bonne idée, vous n'avez pas besoin d'être constructeur ou agent immobilier pour faire cela. Et ça s'adresse à tous les jeunes qui ont des projets. Alors, faire une agence immobilière en ligne... C'est une idée qui n'est pas tout à fait nouvelle. Alors maintenant, le site internet...
Sauf qu'elle n'existe pas telle qu'elle.
Oui, non, mais en fait, donc je veux dire, le site internet, si vous devez aller chercher un financement pour le site internet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lancer le projet. Un site internet, aujourd'hui, vous allez trouver 2-3 jeunes qui sont en programmation, en informatique, des web designers à Bamako. Vous les associez au projet, ils vous sortent un site internet en moins d'une semaine. Donc, il faut pas que vous bloquiez en disant que vous cherchez un financement pour le site internet. C'est le truc le plus simple aujourd'hui à faire. Donc, Aboubakrine, allez voir vos copains de fac ou des amis qui peuvent faire un site web déjà pour faire un site web. Ça vous coûtera pas grand-chose, honnêtement. Si vous avez cette vitrine, c'est ce qui va crédibiliser votre demande auprès des agences immobilières ou de ceux qui ont des biens à poster sur Internet. Mais si vous y allez effectivement en passant par la deuxième question pour venir à la première, vous ne trouverez rien.
Donc lancez-vous, c'est ça. Allez-y, démarrez, faites le site.
Un site
mettez
Internet,
des...
aujourd'hui, c'est tellement, c'est vraiment basique, Abou Bakrine. Hein.
Alors qu'est-ce que vous attendez, Abou Bakrine, finalement?
Ce qu'il a dit, effectivement, c'est ça. Mais la conception d'une site Internet classique comme celui-là, mais il faut des professionnels pour cela. Et puis, pour être crédible face à mes clients, il faut qu'ils me trouvent, il faut qu'ils sachent où me trouver, puisque je vais les démarcher pour les demander et d'adhérer en contrepartie, ils vont payer de l'espace. Donc, pour moi, si j'ai un local, donc ça va créer plus de...
Alors, vous savez, le local va vous créer des coûts additionnels alors que vous n'avez même pas commencé à vous vacciner. Moi, juste pour être un peu pragmatique, si vous réunissez deux, trois copains qui sont web designers, un peu informaticiens, vous les associez au projet, ils vont vous sortir un premier site web parce qu'au moins vous avez la matière que vous pouvez aller présenter. Deuxièmement, si vous connaissez une agence immobilière à Bamako qui est un peu sérieuse et que vous allez la voir en disant « Écoutez, j'ai ce projet-là, est-ce que ça vous intéresse de vous associer à moi ?» Vous m'offrez un petit banc, une petite table dans votre agence qui me permet d'aller ramasser d'autres annonces sur le marché pour la plateforme. Et en plus, vous derrière, ça vous permettra probablement de gagner de nouveaux clients parce que les annonces qui sont dans des agences qui ne trouvent pas preneurs, peut-être qu'elles trouveront preneurs à travers le site et à travers votre agence ou même aller voir un partenaire qui a juste un petit desk, un petit bureau. Quelque part, vous pourrez vous asseoir, avoir accès à Internet. Ça, vous pouvez le faire si vous arrivez avec déjà le site Internet qui est déjà créé. Vous allez voir que les gens vous suivent plus facilement. Il y a même des incubateurs à Bamako. Nous en avons rencontré pendant le sommet Afrique-France.
Et beaucoup de jeunes très dynamiques qui sont de bons bidouilleurs sur Internet en informatique.
Un incubateur peut vous héberger. Il y a des jeunes qui sont bons dans les technos à Bamako.
Rapides et doués.
Avec lesquels vous pouvez vous associer. Ce projet peut vraiment aller très vite.
Ce ne sont pas les talents qui manquent.
Vous vous mettez des freins un peu inutiles.
Il faut y croire, Abou Bakrine. Et là, ça y est, allez, faut démarrer. Hein. Il faut arrêter de penser qu'il faut un bureau, un costume cravate pour démarrer une activité.
Vous savez, c'est beaucoup plus facile ce que vous dites que Cléana qui a réussi à avoir 4 têtes de porc, qui en a 200 maintenant, où il faut un champ, il faut donner à manger aux bêtes,
Claire,
etc.
Vous avez un petit message pour Abou Bakrine, là, qui probablement aussi s'inquiète, s'angoisse, c'est stressant hein, de démarrer une activité.
Oui, mais bon, je pense qu'il ne faut pas, trop se poser de questions. Quand on a un projet, il faut se lancer, il faut y croire dans son projet. Et puis moi, je m'appuie surtout sur une citation de Walt Disney qui dit que tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Donc, courage et détermination.
Formidable. Merci beaucoup Abou Bakrine de nous avoir appelé avant qu'on se quitte. Didier Akwété, vous aimez bien qu'on refasse le point, donner des conseils pour faire son business plan. Alors vous étiez très content du business plan de Klen que vous avez félicité, qui avait un très bon business plan. Oui. C'est pas le cas de tous les candidats, tous les porteurs de projets,
c'est
aussi une question de formation. Vous souhaitez nous parler de la segmentation des marchés quand on prépare son business plan.
Non, effectivement, je crois qu'il faut féliciter Klen pour la qualité de son business plan et Koku également. Qui nous en a fait aussi un très bien.
Pour sa distribution de gaz butane.
Parce que ça permet de rentrer dans le projet. Ça ne veut pas dire que le projet réussira, mais au moins de bien cadrer son projet. Et je voudrais qu'on parle un peu de segmentation de marché. L'exemple de Koku est tout à fait intéressant. C'est-à-dire, il s'adresse à un marché qui est celui des consommateurs de gaz. Et puis sur ce marché, il essaie de vendre ses bouteilles de gaz à tous les segments du marché. Et donc, je lui dis, non, attention, vous avez un produit qui est peut-être adapté à un segment. Donc, le segment permet simplement de prendre toute votre population et puis de la découper en tranches pour voir quelle est la tranche dont les besoins répondent aux produits que vous proposez. Quelle est la tranche dont les comportements répondent aux produits que vous proposez. Quelle est la tranche dont les habitudes répondent à ce produit-là. Donc, ça vous permet de mieux cibler le segment auquel vous allez vous adresser et du coup d'avoir un produit qui est tout à fait ajusté. Donc son produit aujourd'hui s'adresse difficilement au segment de marché des ménagères qui utilisent le four en guillemets traditionnel en fer ou en étain dans la cour, qui aujourd'hui n'a pas encore l'habitude d'abord d'utiliser un four moderne ou un four susceptible d'utiliser du gaz. Donc il doit s'adresser d'abord à un segment de son marché, qui utilise déjà du gaz pour pénétrer son marché, puisqu'il a priori un produit qui est pas mal, un prix qui est attractif. Donc, la segmentation est extrêmement importante quand on arrive sur un marché, parce qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde avec le même produit. C'est très difficile. Donc, très important, quand on élabore son business plan, de bien choisir le segment ou le sous-segment du marché auquel on va s'adresser.
Merci beaucoup Didier Acouetté, merci à vous Clène, longue vie à votre projet, vous êtes parti de quelques têtes de porc, vous en avez 200 et très bientôt vous reviendrez avec les saucissons secs.
Avec plaisir.
Dans le studio de RFI pour une partie de saucisses flares.
Merci à vous Didier Acouetté, merci à toute l'équipe Cécile Lavolo, Camille Néron qui prépare cette émission bien à l'avance, bien en amont et qui accueille les porteurs de projets au téléphone pour discuter, Sophie Janin à la réalisation à la technique. Lundi 7 000 de voisins, nous serons dans l'intimité, le quotidien de la guerre à travers les récits de soldats de l'armée française recueillis par la journaliste Pauline Maucor. Des hommes jeunes racontent pourquoi ils ne seront plus jamais les mêmes et pourquoi ils se sentent totalement incompris de la société française. Ils ont combattu en Afghanistan, au Mali et en Centrafrique. Ne manquez pas l'émission, c'est lundi à 10h10, temps universel. À très bientôt Didier Acouetté, vous revenez le mois prochain. Avec une jeunesse toujours plus dynamique de mois en mois, c'est incroyable.
Forcément, je rajeunis d'année en année, voilà. Vous l'avez constaté.
Grâce aux jeunes porteurs de projets sur le continent africain. Merci à vous tous, les voisins et les voisines. À lundi.